bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec les podcasts de la rédaction. Aujourd'hui, épisode 215, mesdames et messieurs, et nous allons revenir sur l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo. Pour cela, eh bien, nous avons l'insigne honneur de recevoir un invité, David Grivel, a.k.a. SK. Comment tu vas bien ?
Eh bien, ça va très bien. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui.
Eh bien, écoute, on en est ravis. Pour ceux qui peut-être suivent un petit peu ta carrière, tu es game designer actuellement sur Ghost Recon Future Soldier chez Ubisoft. Tu en portes d'ailleurs effectivement une belle tenue, mais tu étais il y a encore quelques mois à Francfort, en Allemagne, puisque tu travaillais sur Crysis 2.
Oui, exactement, sur l'IA de Crysis 2, justement.
Et justement, tu nous fais suivre tout ça grâce à un joli blog VIP sur Gameblog. On en est ravis, on t'en remercie, parce qu'effectivement, tu y donnes énormément de toi-même. Et c'est l'un des blogs VIP sur lequel on apprend le plus l'envers du décor, je trouve, puisqu'à chaque fois, tu fais ça vraiment avec passion. Et il y a un épisode dernièrement dans un de tes posts que tu as fait aussi avec Nicolas Rivière,
qui travaillait
il y a peu de temps chez Ready at Dawn et qui revenait sur God of War version PSP. Et c'était passionnant, parce que ça faisait un peu commentaire audio du jeu.
C'est vrai, c'était l'idée. On voulait faire un petit peu ce côté making of, comment ils ont fait, et surtout en jouant, en lui faisant jouer à son propre jeu, de voir quelles étaient les anecdotes derrière le développement.
Et c'est ça commence tout de suite, en plus, dès l'écran titre, je crois qu'il y avait une remarque de ouf.
Exactement, exactement, dès le menu. Et c'est quelque chose qu'on aimerait continuer avec lui ou avec d'autres personnes. J'aimerais bien le faire sur Crysis 2, justement. Ça prend un peu de temps, donc voilà.
Et puis, il y a toutes ces histoires de NDA, des choses qu'on ne peut pas dire. Mais c'est vrai que toi, tu parles dans la limite, malheureusement, de ce que tu peux dire, bien sûr, mais avec totale franchise. Et ce sera très intéressant d'avoir ton regard, justement, sur l'intelligence artificielle du côté des développeurs, car vous allez vous rendre compte que, bien évidemment, on se pose plein de questions. Et pour cela, eh bien, nous aurons Julot.
Le candide.
Le fan de Barnaby. Alors, pourquoi dans cet
épisode Barnaby a une très bonne intelligence, mais pas artificielle.
Tu sais que ça commence à faire son chemin. Il y a maintenant des gens dont les.
Je sais, les parents, gens dans les forums me disent : Moi aussi, ma femme regarde Barnaby.
C'est très bien. Voilà. Et bien évidemment, on aura aussi Raon pour parler d'intelligence artificielle ensemble. Alors, on se posera beaucoup de questions. La première, c'est forcément. Pourquoi ? Quelle est la différence en fait entre intelligence artificielle et script ? Qu'est-ce qui fait véritablement le distinguo ? Pourquoi l'intelligence artificielle ? On a parfois l'impression que c'est le domaine qui a peut-être le moins évolué sur les dernières générations, au-delà des graphismes, des cinématiques. On a parfois l'impression que ça avance, mais lentement. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? De l'intelligence artificielle dans le futur, on sait qu'apparemment c'est quelque chose chez les développeurs et chez les joueurs aussi qui compte de plus en plus. Alors est-ce qu'on aura de grosses surprises ? Est-ce qu'on peut parler de véritable intelligence artificielle ?
La vraie
grande
question.
Qu'est-ce
qu'elle
est ? The question. Quelles en sont les limites ? Enfin tout ça, on va en parler pendant cette belle heure de podcast sur l'IA dans le jeu vidéo. Et pour bien commencer, David, j'ai envie de te poser la question simple, c'est quelle est en fait la définition d'intelligence artificielle dans le jeu vidéo et quels en sont ses ingrédients ?
Oui. Alors, il y a l'intelligence artificielle, comme on l'entend en général, c'est donc une intelligence sur ordinateur qui est capable d'apprendre, qui est capable de faire des décisions par elle-même. Mais tout ça, c'est plutôt dans le domaine de la robotique. Nous, dans le jeu vidéo, on est beaucoup plus humble que ça. Mmh. Souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est un ensemble de comportements prédéfinis. Mmh. Et ce qui va faire le sel de tout ça, c'est justement comment on va utiliser ces comportements. Mais on est bien loin de la vraie intelligence artificielle qui est celle de la robotique.
Mmh. Alors justement, tu disais des comportements prédéfinis. C'est où la différence entre le comportement prédéfini et le script ?
Alors en fait, moi ce que j'entends souvent par script et comportement prédéfini, on a d'un côté l'IA qui va avoir un ensemble de comportements donc définis dans le code, définis par les programmeurs, et qui va pouvoir choisir entre ces différents comportements en fonction de ce que fait le joueur, notamment. Maintenant, le script, c'est pour moi lorsque le level designer va prendre la main sur l'IA afin de lui faire faire quelque chose de précis. Par exemple, dans Call of Duty, si je veux que Stell IA aille sur le toit et qu'elle se mette à tirer une fois de cet endroit précis pour dire au joueur hey, regarde là-haut, il y a un lance-roquette sur le toit, et ben, il va falloir que je prenne la main sur son IA, en fait, lui faire éteindre son cerveau d'intelligence artificielle pour qu'elle fasse
pendant
tout ça.
Pendant un laps de temps.
Et voilà, pendant un laps de temps. Et suite à ça, je vais lui rallumer son cerveau à la fin, entre guillemets. Et donc, voilà, pour moi, ça, c'est la différence entre les deux. Et le danger, c'est que si on fait trop de moments scriptés comme celui-ci, si on garde la main trop longtemps sur l'intelligence artificielle, elle n'aura pas le temps de se développer, de réagir comme elle était programmée. Et du coup, elle va avoir l'air complètement abrutie. Voilà. Donc, il faut trouver le juste milieu entre les deux.
Enfin, en même temps, c'est tout le truc, c'est qu'en fait, on parle d'intelligence artificielle, mais c'est plus souvent de la stupidité artificielle, dans la mesure où si on voulait vraiment faire des adversaires très intelligents, capables d'adopter toujours la meilleure position, de viser toujours très bien, etc.
On serait mort tout le temps.
Mais c'est surtout, c'est pas si compliqué que ça. Le plus compliqué, c'est de donner un comportement crédible, et c'est ça qu'on demande aux ennemis dans les jeux.
On y reviendra dans quelques instants, justement, entre cette frontière entre le réalisme jusqu'au boutisme, jusqu'au boutiste, qui peut amener justement une énorme frustration de la part des joueurs. Et donc quelque part la chose qui a l'air d'être le plus important du côté des développeurs pour le bien des joueurs, en fait, c'est plus la crédibilité qu'autre chose. Exactement. Mais on y reviendra dans quelques instants. Une question toute bête aujourd'hui, avec les machines dont on dispose, PS3, Xbox 360, Wii et les PC actuels, quelle est la part, quand on est développeur, qu'on alloue à l'IA? Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui a l'air de demander beaucoup de ressources.
Oui, alors la part de l'IA, ça dépend de ce qu'on veut faire sur le jeu. Ça
sur un gros, on va dire, studio. Sur un gros jeu, un gros blockbuster, un AAA.
Voilà. Sur un AAA du style Call of Duty ou je ne sais quel autre jeu de guerre. En fait, on part donc avec une machine qui a partager un certain temps machine pour chaque élément d'un jeu. Donc, c'est-à-dire afficher les graphismes. Tout ce qui est les effets de son, les effets de particules, etc. Et l'IA est un de ces composants. Tout le challenge va donc être de réussir à faire une IA intéressante avec ce pourcentage de temps machine qu'on a. Et celui-ci, généralement, n'est pas énorme, parce que c'est vrai que d'habitude, ce qu'on recherche dans ces AAA, c'est que ça soit joli visuellement, que ça sonne bien, etc. Et donc l'IA...
C'est un peu délaissé. Voilà.
C'est un peu
c'est
délaissé.
C'est la quatrième roue du carrosse. C'est... Cinquième roue du carrosse.
Oui, c'est la cinquième.
La cinquième. C'est ça.
En général, il y en a déjà quatre.
Il y en a quatre.
C'est là, elles servent à rouler, elles sont essentielles. Puis la cinquième.
Donc c'est vrai que j'avais un bon exemple là-dessus, d'ailleurs, qui montrait comment réagissait un jeu quand il a un peu plus de temps machine pour faire ça. C'était Opération Flashpoint, donc un des derniers jeux de Codemaster.
Qu'est-ce que je me suis fait headshotter dans ce jeu?
Ouais.
Ils étaient très intelligents. Mais alors tellement intelligents qu'ils t'alignaient à 2 km.
Alors en fait, il y avait une anecdote qui était assez marrante. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est bien possible. En fait, quand on rend le jeu en 3D, donc comme je disais, on n'a pas trop de pourcentage pour cette IA. Mais ce qui se passait dans le jeu, en fait, on avance avec des teammates, donc des IA qui sont de notre côté, et ces teammates se comportaient pas de manière pas très géniale tout le temps. Par contre, un des joueurs s'est rendu compte que quand il mettait le menu map, quand il affichait le menu map, qui est un menu 2D, donc qui demande pas trop de rendu, là, d'un coup, les teammates alliés étaient vachement efficaces, prenaient position intelligemment, et sur la map, on les voyait se déplacer et faire leur truc vachement bien.
Parce qu'il y avait plus de parce temps qu'ils avaient plus, de calcul.
Voilà, parce qu'on n'avait pas à rendre tout le monde en 3D, et du coup, ils avaient beaucoup plus de temps pour faire ça. Alors, anecdote à vérifier, mais je suis certain que ça peut jouer, puisque ça arrive dans d'autres jeux.
Donc, même si on y reviendra plus tard, à l'avenir, avec des machines plus puissantes, on risque d'avoir quand même un gros gain sur l'intelligence artificielle.
Bah ça, ce serait l'idéal.
C'est pas gagné quand même.
C'est pas gagné non plus.
Bah oui, parce
en
qu'ils
effet.
Vont vouloir utiliser toutes les ressources une nouvelle fois pour faire
que
des graphismes.
Surtout beaucoup plus beau, parce que c'est le premier truc que tu
et
vois.
Ça restera
quoi.
La cinquième roue du carrosse.
On entendait parler à l'époque de la PS3, les premières rumeurs, qu'il y aurait une puce dédiée à l'intelligence artificielle.
Oui.
C'est pas d'actualité, ce genre de choses aujourd'hui.
Alors, je sais pas exactement sur la PS3, mais je n'ai pas entendu en tout cas pour.
Enfin, c'est pas une direction qui a l'air de prendre l'industrie en tout
non,
cas.
Non, je pense que pour l'instant, on est encore dans la même optique, même si sur certains jeux, les gens se rendent compte que. Ah bah oui, quand on donne un petit peu plus la main libre à l'IA, on arrive à avoir des choses très, très intéressantes. Donc à voir, moi j'aimerais bien évidemment qu'on ait un peu plus de pouvoir là-dessus. Mais après tout dépend, hein. Si on veut faire un jeu, on peut très bien faire un jeu sur PS3 très simple niveau graphique, mais avec une IA de malade. Ça c'est déjà possible. Mais c'est toute une question de trade-off.
Il y a aussi des jeux.
C'est-à-dire d'équilibrage, de choix.
Oui, voilà.
Le trade-off, si tu retires un endroit pour mettre à l'autre, bah t'as retiré un endroit. Mais il y a déjà des jeux, parce que comme nous disait SK tout à l'heure, on parle pas. Enfin, l'IA des jeux vidéo, c'est pas de la vraie IA, mais il y a eu quelques jeux Quelques-uns, vraiment très peu, avec de la vraie IA, c'est-à-dire une intelligence artificielle capable d'apprendre, d'adapter ses décisions en fonction des choses qu'elle apprend du joueur ou de son environnement.
C'est ça une vraie IA ?
Ça, c'est une vraie IA. Une IA qui capacité d'apprendre et d'intégrer de l'information et de changer son comportement par rapport à cette nouvelle information. Je pense notamment à Creature, qui était un petit jeu qui est sorti il y a déjà un paquet de temps. Je me souviens plus de la date de sortie, mais enfin c'est un assez vieux jeu. Donc en l'occurrence, c'était pas en 3D, c'était en 2D, et c'était des bestioles, les petites narnes, qui pouvaient s'accoupler, donc échanger du matériel génétique entre eux, développer des nouvelles capacités, apprendre les uns des autres et apprendre de ce que le joueur leur faisait. Plus récemment, il y a eu aussi Black and White, dont on se souvient qui est sorti chez Lionhead, qui était un des jeux de Peter Molyneux. Voilà, où la créature aussi changeait son comportement. Bon, c'était pas très très visible non plus, hein, c'était un peu le bordel, mais grosso modo, tu pouvais lui donner des claques ou la caresser en fonction de ce qu'elle faisait. Du coup, elle apprenait, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Par exemple, faire caca au milieu du village, tu lui collais des tartes, elle arrêtait de le faire au bout d'un moment. Si au contraire tu la caressais, elle continuait, elle le faisait de plus en plus, elle allait tout le temps dans le village pour faire caca.
Voilà, c'est ce que je vous dis, quand on l'encourage avec son rire à chaque fois, on va pas le calmer, hein, on va pas le calmer.
Donc ça existe, mais il y en a effectivement très peu, et il faut que ça soit une part importante du jeu et du game design dès le départ. Parce
c'est
que
ça,
c'est
ce que j'allais dire en fait. Parce en fait, sinon, si c'était juste un élément de jeu, il suffirait que tu dises aux gens de pas faire caca au milieu du salon, quoi.
Dans la plupart des cas, en fait, c'est plus facile et plus percutant visuellement de scripter une action que d'attendre de l'IA qu'elle la fasse.
Du point de vue du joueur lambda, est-ce que vraiment, quand il a joué à Creature ou quand il joue à Call of Duty ou Halo ou je ne sais quoi, est-ce qu'il voit la différence finalement entre une vraie et une fausse IA?
Entre Creature et Call of Duty, oui, je crois.
Mais sur Call of Duty, tu t'en fous, tu vois. Les mecs, ils sont là pour se faire shooter, quoi.
Est-ce qu'il se dit là c'était une vraie IA et là c'était pas une vraie IA? Non. Le grand public se dit pas ça.
Il y a un autre problème, par exemple, si je prends un exemple entre les deux jeux que tu as cités, c'est le côté que sur Call of Duty, l'espérance de vie d'une IA est de 2 ou 3 secondes. Tandis que dans les jeux avec le chien, ouais, dans le jeu de Lionhead, cette IA va t'accompagner presque tout le jeu. Donc là, on a le temps de l'avoir évolué, on a le temps de l'avoir avancé, etc. Mmh. J'ai un exemple, par exemple, de Halo 1. Mmh. Un des programmeurs du jeu avait en fait reçu une lettre d'un joueur qui lui disait: tiens, c'est marrant, quand je joue en mode légendaire, donc le mode le plus difficile du jeu, je me rends compte que les ennemis sont beaucoup plus intelligents. Ils vont se cacher, ils essayent de me prendre à revers, etc. Et le programmeur, ça l'avait fait sourire, parce qu'en fait, en légendaire, tout ce qu'il y a, c'est qu'ils survivent plus longtemps. Mmh. Donc ils ont plus longtemps pour développer plus leur comportement, faire des choix intelligents, etc. Mmh. Donc c'est vrai que ça rentre en ligne de compte aussi. Ouais.
Bien sûr.
Alors il y a une chose qui est assez amusante, David, c'est de voir qu'il y a des bonnes IA. Ils sont bien codés, sur lesquels il y a beaucoup de spécificités qui ont été apportées. Mais il y a des éléments dans le jeu qui peuvent les rendre, ternir finalement la sensation qu'on a, et donc donner l'impression que ce n'est pas des bonnes IA, et que donc le joueur peste en disant mais ce comportement il est minable. Quelles sont ces problématiques? Qu'est-ce qui peut rendre une bonne IA mauvaise?
Oui, excellent sujet. c'est notamment une des choses qu'on avait analysées sur Crysis 2, c'est-à-dire que quand on faisait nos tests dans nos niveaux tests, justement, c'est-à-dire des niveaux bien carrés, bien organisés pour l'IA, mm-hmm, alors là, on avait des comportements magnifiques, quoi, et qui se retranscrivent d'ailleurs parfois dans le jeu. Seulement, entre-temps, il y a d'autres éléments de design qui sont arrivés, comme par exemple le fait que dans Crysis 2, on peut un peu prendre n'importe quel objet et le jeter au milieu de n'importe où, des voitures, des choses assez grosses d'ailleurs. Et ce genre de choses, pour une IA, c'est assez terrible, parce que si son système de navigation, donc la manière dont elle se déplace dans le monde, n'est pas suffisamment robuste, et ben quand on va lui jeter une voiture devant elle, et ben il se peut très bien qu'elle ne sache plus quoi faire. C'est-à-dire qu'elle a quelque chose qui n'était vraiment pas attendu, elle ne sait pas gérer ce moment-là. Et du coup, on se retrouve des fois avec des IA un petit peu...
Et alors ça, pourquoi? Parce que les personnes qui avaient conçu l'IA au début n'avaient pas cet élément en considération, c'est-à-dire le fait que dans le jeu, on allait pouvoir jeter des choses et donc que ça allait interagir, etc.
C'est-à-dire qu'en fait, si on prend l'exemple de Crysis 1, c'était donc un jeu très ouvert, mm-hmm, avec la plupart du niveau qui était tourné en extérieur, sur du terrain, donc il y avait la place pour l'IA, et dans ces cas-là, elle gérait très bien ces histoires d'objets physiques, notamment, ou de pathfinding, donc la manière dont elle trouve son chemin. Mais dans Crysis 2, on se retrouve dans un environnement à plusieurs étages, très souvent, parce qu'on est dans une ville. On se retrouve dans un environnement plus fermé, plus inégale aussi, avec beaucoup de gravats, de choses comme ça sur le terrain. Et du coup, cette IA qui a été prévue pour, à la base, prévue pour de l'extérieur assez plat, se retrouve dans un environnement dans lequel elle n'est pas favorite, quoi. Elle ne part pas favorite. Donc on se retrouve, en effet, avec ce problème qui semble la rendre plus idiote, mais en fait, c'est juste dû à ces deux choses qui
vont. Tu veux réagir, hein.
Ouais, de la même manière aussi, en fait, la plupart du temps, quand on observe une IA qui a l'air débile, c'est pas que l'IA est débile, c'est qu'il y a un autre système qui rentre en conflit avec cette
IA.
Par exemple, la plupart des jeux, les objets qui sont dedans, les êtres animés, sont des bipèdes. C'est des humains ou des aliens, des trucs, mais ils sont à deux pattes. Il est nettement plus difficile de faire naviguer et d'animer un truc à quatre pattes.
Je sens qu'on va parler de fables.
Exactement. Non, mais ça reste de très bons exemples, en fait. Oui. Par exemple, la navigation du chien dans Fable 2. C'est-à-dire sa façon d'aller devant le joueur, de se retourner, de faire des ce que fait un chien, en fait. C'est-à-dire vraiment précéder son maître, revenir vers lui, jouer à la baballe, de faire des cercles autour de lui, etc. Alors que tu sais pas exactement à quel moment le joueur va décider de virer de cap, etc. Bon, alors il y a de la prédiction, il y a plein de choses qui sont mises en place. Mais ce qui choquait le plus pendant le développement de Fable 2, nous a expliqué entre autres Peter Molyneux quand on lui posait ces questions sur l'IA, c'était pas que l'esprit du chien marchait pas. L'esprit du chien marchait parfaitement. Mais par contre, il arrêtait pas de se coincer dans des cailloux, d'être tordu, d'avoir des angles chelous.
David acquiesce, hein, pour ceux qui n'ont pas la vidéo parce qu'ils ne sont pas premium.
À cause des problèmes de l'animation et de la navigation, qui sont des trucs qui sont un peu différents de l'IA. C'est-à-dire que l'IA dit, bah alors moi, il faut que j'aille là et que je me mette à courir. Et elle balance cette donnée-là à d'autres systèmes qui vont animer la course du chien et son déplacement, etc. Et ces systèmes-là se rendent compte, enfin, se entrent en conflit avec les décors, avec machin. Parce que dans un immense décor en 3D, il y a ce qu'on voit, c'est-à-dire les cailloux, etc. Et par-dessus ça, il y a des maps qu'on ne voit pas, qui gèrent la navigation des individus, des PNJ, etc., qui leur disent, là, tu peux y aller, là, c'est de la flotte, tu ne peux pas y aller. Là, pour nous, c'est juste un décor visuel qu'on observe comme ça et qu'on voit naturellement, dans lequel on évolue naturellement en tant que joueur. Mais derrière ça, il y a encore plein de systèmes qui cohabitent les uns avec les autres.
Mais ça, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que ça, justement, les développeurs le savent, ils ne le découvrent pas à la fin du jeu. Oui. Donc, pourquoi il n'y a pas des routines? Je comprends bien que c'est extraordinaire complexe, hein.
Ouais, c'est ça.
Mais pourquoi il n'y a pas des routines qui sont conçues justement pour éviter de se prendre les pieds dans du gravat?
Alors il y a plusieurs choses,
David.
Je pense qu'il y a trois grands éléments. Il y a, si on prend le plus bas niveau, c'est le moteur, donc le moteur de jeu qui lui est fait par des ingénieurs, et c'est là qu'ils vont développer notamment le système de navigation pour l'intelligence artificielle, etc. Ensuite, au niveau au-dessus, on va avoir les programmeurs du jeu qui vont créer le comportement de ces IA dans ce monde. Et ensuite, au-dessus de ça, on a les level designers qui, eux, créent le monde dans lequel vont bouger ces IA. Donc, ces trois grosses entités qui, si elles ne fonctionnent pas exactement ensemble, vont créer ce genre d'issue. Et c'est vraiment pas évident à éviter parce que, par exemple, on peut décider que dans tel niveau, maintenant, voilà, il y a un éboulement qui a eu lieu en plein milieu de la place. Et puis... tout le monde trouve ça bien, les artistes sont d'accord, les level designers sont d'accord, tout le monde est d'accord, on le fait, mais seulement on va pas réécrire tout le moteur ou toutes les choses derrière pour ce moment-là.
Juste donc, pour une séquence.
On va se dire, ok, ça va peut-être être un peu moins bien ici, mais ça va passer quand même. Donc voilà, c'est une espèce d'ensemble qui est très difficile à équilibrer.
Alors, on a évoqué là les faiblesses de l'IA rapidement, mais alors... Qu'est-ce qui fait une bonne IA? Quelles sont les composantes clés?
Ouais, moi je crois que une bonne IA, et je crois que Peter Molyneux le disait aussi, c'est surtout quelque chose de lisible pour le joueur, c'est-à-dire quelque chose où le joueur sait exactement à quoi s'attendre. J'avais fait notamment sur le blog une analyse d'Uncharted 2 et de son intelligence artificielle qui, pour moi, niveau lisibilité, est vraiment exceptionnelle. Ça va par plusieurs choses. Ça va par déjà le visuel de cette IA, donc les ennemis, de savoir que le joueur, quand il arrive dans une pièce où il a 6 ennemis à affronter, s'ils sont tous de type différent, il faut qu'il sache très rapidement quel est le plus dangereux. Et c'est bête à dire, mais il y a beaucoup de jeux où on se retrouve devant des ennemis de difficultés différentes, mais on ne sait pas par qui commencer. Donc ça, c'est une des choses qui peut potentiellement frustrer le joueur. Donc il faut que ce soit lisible du côté visuel.
Donc là, carrément, ça peut aller accoutrement, les habits, exactement. La taille du personnage.
Exactement. Si je reprends l'exemple d'Uncharted, c'était vraiment on démarre contre des mecs en t-shirt avec un bandana et on finit à la fin contre des mecs avec des armures incroyables et des casques, des masques faciaux, etc. Donc,
c'est quelque chose que fait bien Alan Wake American Nightmare, je trouve, par rapport au premier Alan Wake.
Oui.
C'est d'avoir une variété de personnages et visuellement, tu comprends tout de suite lesquels sont forts, moins forts. Et
effectivement,
et
du coup, c'est des codes très simples. Hein. C'est la taille des personnages, leur mocheté.
Mais du coup, t'as l'impression que du coup, toi, ça change ta manière de réagir. T'es plus tactique et donc tu prends plus plaisir à essayer de les contourner. Donc de les,
ce qui est
de
bien, c'est qu'ils ont différents
patterns. Oui,
c'est
de,
ça.
C'est qu'ils réagissent pas de la même manière à la présence du joueur.
Par exemple, il y en a un type d'ennemi en particulier qui est très intéressant côté IA. Bouchez-vous les oreilles si vous n'avez pas fait American Nightmare, parce que je vais vous spoiler ce type d'ennemi. Mais
attention, bouchez-vous les oreilles.
Voilà, il y en a un qui se divise en deux quand tu le tires une première fois, et donc il crée deux nouveaux individus, donc deux nouveaux IA qui sont complètement indépendants et qui peuvent bouger indépendamment. Et c'est con, tu t'en rends pas forcément compte quand t'es juste un joueur, mais c'est vachement bien en termes d'IA. C'est pas très courant de voir ce genre de truc, et c'est hyper surprenant pour un joueur.
Ce qui est con aussi, c'est parce que maintenant ils ont toujours les oreilles bouchées, ils savent pas que c'est maintenant qu'il faut reprendre.
C'est vrai.
Eh oh, revenez,
c'est bon, revenez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous n'entendez pas, alors il faut parler plus fort. Voilà, c'est bon.
Et
David, excuse-nous, petite digression.
Le visuel, mais ça passe aussi la crédibilité de l'IA, notamment passe, on a vu ça beaucoup dans les Call of Duty, justement par l'animation et par le son. Donc on voit, si on prend par exemple le niveau du cargo dans Modern Warfare, qui est le premier niveau du jeu où on infiltre un cargo de nuit, on voit beaucoup d'animations de ses partenaires qui enfoncent une porte, qui font ci, qui font ça, et ça participe à la crédibilité. Ça c'est du script, mais c'est sur une IA,
ouais.
Donc ça en fait partie aussi. Il y a aussi pour les IA ennemis, l'introduction aux joueurs de comment les battre.
Ça, c'est intéressant.
Voilà, donc le tutoriel vis-à-vis des IA, parce que encore une fois, si je me retrouve, il y a des jeux qui font ça, hein. Il y a des jeux qui font, tu vas prendre 3 game over avant de comprendre comment avoir cette IA. Mais si c'est bien mis en avant, voilà, on te présente un mec au RPG contre toi tout seul dans une situation bien fermée, machin, pour que tu comprennes ce qu'il faut faire. Et ben ça participe aussi beaucoup à faire une bonne IA. En fait, c'est pas l'IA directement, mais c'est la perception du joueur via l'IA.
C'est-à-dire que le joueur aura l'impression que la personne qu'il a en face de lui est plus crédible.
Et pas plus crédible, mais comment dire, au niveau de son expérience de jeu plus tard, quand il la rencontrera encore une fois, et cette fois-ci au milieu d'autres ennemis, et ben il sera pas perdu et il saura exactement comment la gérer, etc. Donc dans son expérience de jeu, dans son expérience de combat, et ben elle sera meilleure parce que ça a été bien présenté, ça a été bien mis en forme. Et encore une fois, dans Uncharted, si on reprend le début du jeu, on voit exactement les différents types d'ennemis qui sont présentés aux joueurs l'un après l'autre. Voilà. Et quand plus tard on a affronté un shotgunner, un mec au RPG, un mec au lance-grenade, il n'y a pas de souci, ça se fait en un quart de seconde dans la tête du joueur. C'est bon, je commence par lui, il faut que je le batte comme ça, etc. Donc ça, c'est des petites choses, mais quand c'est pas bien fait, ça peut amener beaucoup de frustration de la part.
En fait, t'apprends les comportements de ces ennemis, quoi. C'est ça. Oui. C'est que tu sais que par exemple que tel ou tel mec il va te foncer dessus tout de suite, que tel autre il va plutôt avoir tendance à se planquer, etc. Donc t'apprends petit à petit comment une IA gère l'approche du joueur, quoi. Pour moi par exemple, une bonne IA, et c'est celle qui nous avait particulièrement impressionné à l'époque du premier Halo, encore une fois, c'est pas forcément quelque chose d'intelligent. Par exemple, les grunts, les espèces de petits personnages de Halo qui font comme ça, et qui sont en général qui sont en général accompagnés par une ou deux élites, donc les vrais gros soldats méchants. Quand on leur balance une grenade, un plasma sur eux et qu'elle colle, ils ont tendance à péter les plombs et à faire comme ça, et à aller courir directement vers leur petit groupe. Et donc ils font péter tous les autres. C'est stupide. Mais c'est de l'IA que tu vois, que tu identifies, et tu t'apprends ça comme une technique, effectivement. Tu te dis, si j'arrive à balancer ma grenade au bon moment et à la coller sur ce ground, je sais qu'il y a toutes les chances pour qu'il se mette à péter les plombs et à avoir un comportement qui reste crédible. Même s'il est stupide, il est crédible, quoi. C'est ça. C'est que tu te dis, peut-être que moi, si j'étais un grunt avec une grenade à plasma aux fesses, je ferais pareil.
C'est comme dans le premier Medal of Honor où il prenait les grenades qu'on envoyait.
Oui, il les renvoyait. C'était hallucinant. Ça, c'était un truc de fou, effectivement. Sur PS1, hein, quand même. Hein. C'est une vieille machine maintenant, vraiment. Donc, effectivement, c'est des petits trucs comme ça. Mais en fait, ils le font systématiquement, quasiment. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est pas vraiment comme de l'IA. Enfin, tu vas pas rencontrer un Grunt par exemple dans le tas qui va être beaucoup plus intelligent et qui va retirer la grenade et la balancer ailleurs. Ils feront toujours les mêmes choses, mais ça participe d'un ensemble de comportements de différents types d'ennemis qui fait que c'est crédible et que c'est surtout fun à jouer. Et que quand ça t'arrive la première fois que tu vois ça sur Xbox à l'époque, tu fais oh, mortel, il est en train de faire péter tous les autres.
On va revenir vraiment sur ce point parce que dans quelques instants, parce qu'il est vraiment aussi central sur la perception. Et je crois que toi, du côté développeur, parfois il y a des vraies frustrations de voir des perceptions de joueurs qui disent mais elle est nulle cette IA, il ne devrait pas réagir de cette manière, alors qu'en fait, quelque part, ça a été pensé pour ou ça a été pris à revers. Est-ce que tu aurais des exemples, David ?
Oui, tout à fait. Oui. Sur le développement de Crysis 2, on avait voulu faire en sorte que les IA ennemies humaines soient vraiment différentes des IA ennemies aliens. Parce que dans le jeu, les aliens, ils ont un exosquelette, ils sont protégés de base, quoi. Ils sont pas des tas de chair comme les humains. Donc du coup, on s'était dit, eux, ils ont pas besoin de se protéger. Eux, c'est un peu Terminator, entre guillemets, quand ils commencent à marcher sur le joueur, ils y vont droit, et puis ils tirent dans le tas. Seulement, certains joueurs ont trouvé que ces aliens étaient trop faciles à tuer. Et du coup, qu'elles étaient trop faciles à tuer, quand elles commencent à marcher vers le joueur sans se protéger et qu'elles se font tuer en quelques balles, les joueurs trouvent ça bête. Ils se disent, l'IA, elle est stupide, elle ne va même pas se mettre à couvert, etc. Alors que c'est faux. Elle fait exactement ce qu'on lui a demandé, seulement ça n'a pas été bien perçu par le joueur. Et voilà. Et donc,
le côté
terme,
inexorable s'est transformé en quelque chose de contournable trop facilement.
C'est ça. Donc en fait, là pour le coup, si je regarde ça a posteriori, ça aurait été de faire que cette IA soit plus résistante ou plus menaçante, de manière à ce que le joueur comprenne que il a pas besoin de se cacher parce qu'il est vrai.
Le Némésis, quelque part.
C'est ça, Terminator, effectivement. Quand tu vas chercher Zeneger dans l'hosto au départ, là, qui marche tout droit, etc.
Les élites de Halo marchaient bien comme ça, justement. Elles se planquaient de temps en temps, mais souvent elles faisaient des sorties, elles fonçaient droit sur le joueur, et comme ils étaient armurés par devant, t'avais beau vider des chargeurs, ils crevaient en général juste à tes pieds, quoi. C'est-à-dire que t'étais au dernier moment.
Là, le meilleur exemple que j'ai en date, c'est dans Dead Space 2, des espèces de petites créatures qui commencent à vous regarder sur le côté au début, puis à partir du moment où elle décide d'y aller, elle court en poussant des hurlements droit devant, et là on recule et on tire, bam, 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 et effectivement elle s'effondre juste devant soi, au mieux, hein, ou sinon elle te perfore. Mais
des raptors de Jurassic Park, quoi.
Aussi, c'est exactement ça. T'as d'autres exemples justement de perception où tu as entendu parler dans d'autres développements de d'IA mal perçue peut-être?
Là, comme ça, pas vraiment.
Pas forcément.
Mais je suis certain qu'il y en a partout. Ouais. Des fois, ça peut être aussi mal perçu par les joueurs, mais les développeurs peuvent très bien dire. Ouais. Parce que ça a créé quelque chose d'intéressant, par exemple.
Syndicate 1.
Voilà.
c'est quoi cet exemple?
C'est une histoire énorme. Enfin, je me souviens plus exactement des détails, mais en fait, en gros, il y avait un bug dans l'IA de Syndicate. Sauf que le bug générait des comportements qui avaient l'air à peu près crédibles et que les joueurs ont dit c'est génial, l'IA elle est fantastique. C'était un bug, quoi. Donc, on a appris des années après.
Oui, c'est vrai.
Des années après, on a appris qu'effectivement, ça n'était pas voulu. Mais bon, c'était bien, alors voilà.
D'accord.
Ça arrive aussi dans l'autre sens, mais en général, c'est rare dans ce sens-là.
Oui, c'est sûr.
Question très pratique. Comment est-ce qu'on commence la conception d'une IA? J'imagine bien évidemment que ça dépend du style de jeu, etc. Mais on va prendre l'exemple de Crysis 2, que tu connais bien. Mm-hmm. Comment est-ce qu'au début, on se dit, par quoi je commence? Par son comportement face à un ennemi, son comportement face à un environnement? On lui donne combien de règles à reproduire? Ça se passe comment?
Alors, pour Crysis 2, on était donc parti sur la base de Crysis 1, au niveau des IA humaines. Pour la partie des IA aliens, c'était pas du tout la même chose, parce que dans Crysis 1, c'était des aliens qui volaient. Dans Crysis 2, c'est des aliens humanoïdes, ou du moins qui sont sur des jambes, sur deux jambes. Et ça a son importance au niveau du design, justement, ils peuvent pas faire les mêmes choses. Donc on commence par voir, par créer des archétypes, par créer quel va être le challenge que cette IA va rapporter au joueur. Ça peut être des IA ennemis, ça peut être des IA alliés, ou ça peut être des IA neutres aussi, ça existe. Donc Crysis 2, on n'en avait pas, mais on voit des fois dans certains jeux des IA qui se battent entre elles. Voilà, elles ne nous agressent pas, mais elles se battent entre elles. Donc ça participe au, comment dire, à l'ambiance du jeu. Mmh. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est quelque chose que les joueurs adorent voir. C'est quelque chose qu'on a remarqué. Les IA qui se battent entre elles, c'est, voilà, c'est souvent génial. Et puis en plus, c'est jamais la même chose. Donc,
c'est vrai que dans un jeu de bagnole, par exemple, quand on voit des adversaires se planter ou se chercher les, des noises entre eux, ça... justement ça évite la, comment dire, le côté binaire qu'on a
t'es seul contre le monde,
pilote, voilà, seul contre les IA, quoi, et tu vois que on fait tous la course ensemble, enfin les uns contre les autres, et que finalement il n'y a pas que toi qui peux subir l'agressivité d'un autre. Et c'est vrai que la réaction d'un joueur à chaque fois, c'est ah putain génial, regarde, il est sorti de la route à cause de l'autre connard qui lui est rentré
ou dans Red Dead quand t'affrontes des bandits et que tout d'un coup t'as un guépard qui arrive et qui attaque le bandit, voilà, c'est génial parce que là tu fais, c'est,
ça fait
c'est
un
totalement
c'est
crédible,
un truc, un truc qui arrive, tu t'y attendais pas, c'est vrai, c'est mortel.
Et je crois aussi que la manière dont on l'aborde dépend justement si ce sont des IA ennemis ou alliés. Par exemple, une IA ennemie, on va chercher à ce qu'elle apporte un challenge au joueur, tandis qu'une IA alliée, elle, va plutôt, on va plutôt chercher à ce qu'elle n'embête pas le joueur, c'est-à-dire elle ne se mette pas en plein milieu de son chemin quand il est en train de viser ou de tirer, mais qu'elle soit utile par moment, mais pas trop non plus, parce qu'on veut pas enlever le challenge au joueur, etc. On veut pas non plus que ce soit un objet, parce que ça arrive aussi dans certains jeux. Donc il y a tous ces petits points à prendre en compte qui sont complètement différents si on fait une IA alliée ou ennemie.
Et à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé dans Resident Evil 5 pour que ce soit à ce moment-là une plaie, cette IA? Non, c'est une blague.
C'est pas une blague, c'est une
blague. Mais je pense que tu n'étais pas dans le développement. Donc,
non, j'étais pas dans le développement.
Mais qu'est-ce qui lui manque, à ton avis? Toi, avec ton regard de développeur, qu'est-ce que vous lui auriez mis en plus, en moins?
C'est vraiment pas évident de faire une IA alliée. Mm-hmm. D'ailleurs, sur Ghost Recon, en ce moment, vous avez pu voir dans les vidéos qu'on a des IA alliées avec nous. Donc, je connais bien le sujet. C'est vraiment pas évident. Et ça demande beaucoup de réglages. Ça demande énormément de réglages.
C'est un processus itératif ou
c'est très itératif.
On essaye, on corrige.
Ah oui, parce qu'on peut se retrouver dans une situation où justement, déjà, une des principales choses quand on fait un jeu à porte entre guillemets comme Resident Evil 5, c'est-à-dire des jeux où on n'arrête pas d'attendre son personnage, enfin le personnage allié, tous les 25 mètres, il faut être sûr et certain. La première chose, c'est il faut que cette IA arrive à ce point-là, quoi qu'il arrive. Mais il faut le faire sans que le joueur se rende compte de certaines supercheries. Par exemple, je sais que dans Mass Effect, ils utilisaient ça. Si les personnages alliés étaient bloqués, ils étaient tout simplement re-téléportés derrière le joueur. Donc voilà, on peut utiliser ce genre de choses-là pour éviter ce genre de problème. Quoi.
Sauf qu'il faut évidemment pas que le joueur soit témoin d'un personnage qui disparaît à l'écran et qui réapparaît à un autre endroit.
Ouais. Voilà, donc là on utilise un bon nombre de supercheries pour pas les montrer ce genre de choses-là dans Mass Effect. Donc voilà, pour Resident Evil 5...
Est-ce que c'est pas le pire, presque? Parce que du coup, on est toujours confronté à son allié, il est toujours avec soi, etc. Alors que l'ennemi, finalement, s'il meurt, en plus, on est presque satisfait. S'il fait une connerie, on peut pester, peut-être. Bon, enfin, ça peut parfois arranger le joueur. Alors que si son allié commence à rester bloqué dans un mur ou s'il fait n'importe quoi, là, c'est un vrai problème.
Oui, là, c'est un bug bloquant, quoi. C'est un bug A, comme on dit. C'est-à-dire, là, on peut même pas finir le jeu, quoi. Donc, il faut vraiment trouver une solution. Alors la solution la plus dégueulasse entre guillemets, c'est justement de téléporter cette personne derrière nous. L'autre solution, c'est de blinder vraiment le niveau de manière à ce qu'il soit, ce soit pas possible qu'il soit bloqué à quelques endroits. Ça, c'est pas facile.
Qu'est-ce
non plus.
Qu'est-ce que t'appelles blinder le niveau?
Alors blinder le niveau, je veux dire par là, comme je disais avant, l'exemple avec les gravats dans Crysis 2 et tout ça, c'est de s'assurer en fait qu'il n'y a aucun endroit qui soit trop inégal, aucun terrain trop inégal, aucune collision, parce que quand une IA entre en contact avec un mur, par exemple, il y a une collision, il faut bien s'assurer que ces collisions soient bien droites, soient bien, qu'il n'y ait pas de petit espace entre elles, etc. Donc c'est ça que je veux dire, blinder le niveau. C'est-à-dire que de faire en sorte qu'il n'y ait pas moyen que l'IA reste bloquée parce qu'il y a une erreur et là il y a un trou dans le mur ou je ne sais quoi.
Alors c'est quelque chose qui relève plus du level design finalement que de ceux qui codent l'IA en réalité.
C'est un ensemble, c'est à ceux qui codent l'IA de vérifier que de faire un espèce de fail safe, de faire une sécurité, que si l'IA reste plantée, peut-être déclencher un autre comportement. Par exemple, si je reprends sur Crysis 2, on avait des IA, donc quand elles restaient bloquées, le code, ce qu'il faisait derrière, c'est qu'il lui redemandait vas-y, essaye encore d'arriver au point où tu voulais arriver, et si tu peux pas, eh ben, au bout d'un moment, essaye par un autre chemin. Donc ça, c'était une des manières d'y arriver. Ça marche pas 100% du temps, mais c'est une des manières. Donc on peut régler ça des deux côtés.
T'as des souvenirs justement de pendant un développement d'une IA qui était vraiment catastrophique. Vous n'arriviez pas à trouver d'où venaient les problèmes, ou à l'inverse d'un problème qui a généré une bonne surprise.
Des problèmes qui génèrent des bonnes surprises, des fois, oui. Des fois, on se retrouve avec des IA qui sont très, voire trop performantes. Mmh. Donc, ça peut être une bonne surprise. C'est-à-dire que on peut se rendre compte que, tiens, si on fait un jeu à difficulté variable, par exemple, on a difficulté facile, moyenne, difficile, on peut peut-être se dire que, tiens, en niveau facile, notre IA, elle va être super performante. Et c'était peut-être un bug au début, c'était peut-être, tiens, on voulait pas qu'elle tue tout le monde, mais finalement, en une balle, elle headshot tout le monde. C'est arrivé, déjà. Bon, alors, sur le coup, on se dit, oh, bah non, là, il n'y a plus aucun challenge pour le joueur. Donc, on prend ce bug et on en fait finalement une feature. C'est-à-dire, alors, pas au point de lui dire, tu vas tuer tout le monde, mais au point de lui dire, tiens, si t'es en facile, aide le joueur. Si le joueur est en difficile, bon, bah, limite, tu vas tuer personne, etc. Pour qu'on garde un challenge intéressant pour lui.
D'accord. Alors justement, le gros du sujet, c'est la différence entre crédibilité et réalisme. On a beaucoup d'exemples de jeux justement pendant lesquels, eh bien, on sent l'IA de qualité, et pourtant en fait il y a des passages où c'est volontairement amoindri. Il y a l'exemple de Batman par exemple, où il y a carrément des passages où les ennemis sont rendus aveugles pour que ça améliore finalement, enfin aveugle dans le sens, ils vont pas détecter le joueur instantanément, pour que ça améliore l'expérience et pour que ce soit pas frustrant. Moi, je, à titre personnel, c'est justement l'une des choses qui m'a fait, qui me fait préférer la série des Metal Gear au Splinter Cell, en tout cas au tout début, puisque les règles de Metal Gear sont clairement établies. L'IA, on va dire, est plus limitée que celle d'un Splinter Cell.
Bon, mais même juste... pas forcément, en fait. Hein. Même pas forcément. Mais au moins, elle est propre.
Elle est, c'est un jeu d'échecs.
Elle donne ses règles au joueur. Voilà. Elle te dit, voilà, tu joues avec une cône de vision. Si tu rentres dedans...
T'es vu. T'es pas dedans, tu peux faire quelque chose. C'est pas toujours crédible, parce que tu te dis, oui, mais je suis pas passé très loin, il aurait pu m'entendre, etc. Alors que dans Splinter Cell, le premier, en tout cas, je me rappelle, avec cette jauge de sombre, etc. Parfois, y être totalement, et bah, c'est normal, on ne voit pas, et parfois il y a totalement, et l'ennemi qui réagit. Et entre guillemets, bah, c'est plus humain, c'est crédible. Peut-être que j'ai peut-être infiniment bougé à ce moment-là, ou je sais pas quoi. Pour autant, c'est très frustrant, parce que de ces règles-là que tu suis à la lettre, et bah, elles proposent des réactions qui sont pas les mêmes. Alors, où est-ce que, quand on est développeur, on essaye de mettre la jauge entre réalisme et crédibilité ?
Sur ce genre d'exemple, sur la détection, c'est vraiment pas évident, parce que. Le côté réaliste peut apporter donc ce côté imprévisible, comme tu disais, et c'est pas forcément ce qu'on veut. Si je prends l'exemple de Crysis 2, donc on avait aussi une barre de détection, et c'était quelque chose qu'on voulait très lisible pour le joueur. On mettait en grand sur l'écran, de manière à ce qu'il comprenne quand il va se faire détecter. Mais il y a d'autres choses qui peuvent aider ça, comme par exemple une voix qui est jouée à ce moment-là, comme ah, attention, tu vas te faire détecter, machin. Lui mettre plein d'avertissements que attention, tu vas te faire détecter. Ça peut aussi contrebalancer ce problème. Ça permet d'avoir une IA plus réaliste, mais tout en contrebalançant le problème de ah tiens, je me suis fait détecter, j'ai pas compris pourquoi.
Parce que honnêtement, on a l'impression que la plupart des joueurs demandent plus de réalisme. On veut du réalisme, on veut une IA réaliste, etc. Et non, finalement, en fait, les développeurs, c'est presque vous qui volontairement faites en sorte que ce soit pas trop réaliste. Vous pourriez faire des IA plus réalistes, mais vous vous réfrénez un petit peu, parce que sinon, en fait, ça tuerait parfois le plaisir de jeu, c'est ça?
Ah, bien sûr. C'est... De toute façon, si je prends l'exemple d'un FPS. On se retrouve dans une forêt contre un ennemi. Cet ennemi, disons qu'il est réaliste. Alors, il est réaliste. Moi, si j'étais l'ennemi, je suis réaliste. Je vais me cacher derrière un arbre. Je dis rien du tout. Je me mets à plat ventre. Je prends une lunette super précise, je sais pas quoi, et je fais un headshot au joueur. Voilà.
Point de vue, super fun.
ça a l'air génial.
Déjà, c'est super fun. Et puis, point de vue du joueur, c'est je me balade dans la forêt. J'ai aucune indication. Paf. Je me prends une balle en pleine tête. Donc c'est
j'ai envie de dire quand même que c'est dans Metal Gear 3 et que c'est une séquence mémorable.
Est-ce oui, que mais...
Sauf qu'elle se déplace.
Mais peu. Sauf uniquement si tu trouves.
Oui, mais tu sais,
c'est,
une fois de plus, tu connais la règle.
Oui, oui.
Là, tu sais pas qu'il y a un mec planqué.
C'est ça.
Etc.
C'est ça. Donc,
il est tout seul. Ouais. Si t'en as 10,
Il y a plusieurs manières de le feedbacker au joueur. C'est une des manières, bah, c'est de lui mettre un radar avec voilà, la position des ennemis. Une autre, c'est une voix qui va lui dire attention, il y a quelqu'un dans ce niveau, une vue spéciale, une vue thermique,
cette personne,
je sais pas.
Bonjour, je suis Dieu. Attention.
C'est ça. Troisième boulot sur la gauche.
Il essaie de se feinter.
Et une des choses sur lesquelles on a le, on va dire le moins de réalisme, mais au final, ça aide le plus le joueur, c'est, c'est les ennemis qui parlent. L'ennemi qui gueule sur le champ de bataille, je recharge. Alors je suis pas militaire, je sais pas s'ils le font dans la vraie vie, mais à mon avis je pense pas, ou du moins peut-être à leur coéquipier.
Quand t'es en groupe, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Oui, tu préviens les autres. C'est pas toi que c'est quand tu jouais à Syndicate, je crois. Qui disait je recharge. Alors, ça m'a fait marrer pendant une heure. Et c'est pas toi qui m'a dit si sur un champ de bataille pour faut dire à tes.
Bah, enfin c'est dans des configurations où t'es obligé de te fournir un tir de suppression de nourrie ou t'es proche des mecs et que t'entends rien parce que ça part, ça tire dans tous les sens quoi.
Et
bon, je recharge. Tu m'entends mec, je recharge. Quoi?
C'est surtout qu'en pleine forêt. Quand pleine forêt, quand t'es planqué, non, tu gueules pas comme un porc.
Voilà. Mais faut demander à l'ennemi. Mais taisez-vous deux secondes. J'essaie de lui parler.
J'essaie de recharger.
Il dit qu'il recharge. Quoi?
Pardon, David.
C'est pas beau la guerre. Et donc, ce genre de feedback, on va beaucoup plus loin. D'ailleurs, souvent, on entend dans les jeux les ennemis qui disent des choses du genre je le vois, il est là, contournez-le. Enfin, qui vont vraiment donner toute leur tactique.
C'est vrai. On est trois sur la gauche, on arrive.
Roger Hervé.
Et du coup, ça va par contre donner un feedback aux joueurs que ah bah oui, là faut faire attention. Alors là, c'est très difficile parce qu'il y a des jeux, ça peut être très bien perçu parce qu'ils sont un peu plus arcade, ils sont un peu plus, ils se veulent moins réalistes de base. Ceux qui se veulent vraiment très réalistes, et ben il faut quand même qu'ils mettent un peu de ces feedbacks là, parce que si je prends par exemple les opérations Flashpoint, les ennemis ne parlaient pas, il me semble, si je dis pas de bêtises, ils ne parlaient pas du tout.
De toute façon tu ne pouvais pas les entendre, ils étaient à 2 km quand ils te tiraient dessus.
Voilà, c'est ça. Et ils te faisaient un headshot avec une Kalachnikov,
c'était génial comme ça, mais t'arrêtais pas de mourir sans savoir pourquoi.
Voilà, donc alors ça peut être un challenge, mais voilà, c'est un type de jeu pour un public très réduit, on va dire. Maintenant, pour nous, le genre de jeu qu'on fait ou Crysis 2 ou ce genre de choses-là, il fallait que les ennemis parlent. Quand ils jettent une grenade, ils gueulent grenade. Et c'est pas pour rien, c'est pas pour dire aux joueurs qu'ils sont cons, quoi. Mais c'est juste pour lui dire, bah, à ce moment-là, change de cover, mets-toi en mode stealth, etc. Tu vois. Et utilise ces mécaniques que tu as appris contre ce personnage-là. Donc voilà, c'est pour lui annoncer quelque chose. Mais c'est pas évident,
j'imagine bien. Entre les deux. Et justement, il y a plusieurs styles aussi d'IA. Et alors, il y en a celle, par exemple, c'est dans Crysis 2, c'est le cas, qui s'adapte à tout, mais qui du coup n'excelle dans aucun point particulier très précis. Et puis, il y a celle à la Call of Duty qui sont très, très, très scriptées. Donc, qui font très, très bien des attitudes, enfin, une attitude ou deux attitudes. Mais c'est tout. C'est-à-dire que dès que tu la contournes et que tu as compris comment elle fonctionnait, bah, c'est mort, quoi. Jamais elle ne réagira.
Ouais, c'est le problème entre systémique et scripté, donc là il faut essayer de trouver aussi le juste milieu, mais c'est pareil, ça dépend de quel type de jeu on veut faire. Par exemple dans Crysis 2, on essayait de faire quelque chose plus ouvert, avec justement des IA qui savaient faire énormément de choses. Je sais que par exemple les aliens, on en parlait avant, les aliens qui foncent droit sur le joueur, et ben en fait, par exemple un de leurs comportements qui est pas vraiment visible, et je me demande si les joueurs ont réussi à bien le percevoir, c'est qu'elles te foncent dessus, oui. Mais si à ce moment-là, on se met en mode invisible, elles ne vont pas arrêter en faisant ah, tiens, où est-ce qu'il est passé ? Elles vont continuer jusqu'au dernier point où elles vous ont vu. Et là, elles vont activer une EMP. Donc, l'EMP, explosion, qui va donc désactiver votre camouflage. Donc, si on se met dans un petit coin en se disant hop, ça y est, j'allume le stealth, j'allume ma combinaison invisible, eh ben non, je ne serai pas tranquille parce que l'IA, elle va faire ça. Ou alors, si je me mets à la limite d'une couverture et je me penche d'un côté, si l'IA m'a vu pencher de ce côté-là, eh ben elle va pas venir de ce côté-là, elle va essayer de faire le tour par derrière. Donc c'est ce genre de petits détails qui peuvent paraître bizarres aux joueurs, peut-être à première vue, il va se dire tiens, où est-ce qu'il va l'ennemi. Mais que quand ça marche, quand l'ennemi arrive vraiment dans ton dos, tu te dis ah putain, ça c'était cool quoi. Et c'est pas évident d'essayer de mettre en avant ces points-là.
Mais on en revient au problème de lisibilité de l'IA en fait.
Oui, c'est ça. Retour, c'est réussir à le rendre lisible, mais souvent les comportements les plus réalistes sont pas très lisibles justement. Tu te dis tiens d'abord, tu vois, qu'est-ce qu'il va faire ? Ah bah d'accord, il passe par là pour me contourner, etc., etc.
Et est-ce que c'est un petit peu le cas de l'IA adaptative, c'est-à-dire finalement celle qui apprend, on se rapproche un peu plus de la vraie IA. Par exemple, tu me disais dans Left 4 Dead par exemple.
Ouais, alors Left 4 Dead, c'est pas l'IA, c'est pas les ennemis eux-mêmes qui apprennent, mais c'est le manager de ces IA qui s'appelle l'AI Director, qui lui apprend en prenant des, comment dire, de comment joue le joueur.
Des informations
sur le joueur, merci. Donc en fait ce qui se passe c'est que tous les checkpoints du jeu, donc tous les je sais pas combien par niveau, l'ordinateur va analyser est-ce que les joueurs jouent groupés, combien de munitions il leur reste, combien de vie il leur reste, et où est-ce qu'ils se trouvent, etc., etc. Et en fonction de ça, le manager va faire spawner, apparaître donc des IA, pas du même endroit, pas du même type. Parce que si par exemple je me trouve devant un ensemble de 4 joueurs qui jouent très soudés, qui sont blindes en munitions et blindes en vie, eh ben, je vais peut-être essayer de balancer justement des ennemis qui vont essayer de casser ce groupe. Comme par exemple, si je prends Left 4 Dead, le smoker qui attire un des joueurs hors du groupe, ils vont essayer de casser ce groupe-là de manière à faire un challenge plus intéressant pour les joueurs. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de vraiment bien pensé. C'est pas l'IA elle-même, c'est juste la manière dont on va les spawner. C'est un peu un maître de jeu qui s'ajuste au jeu.
Est-ce que ça, c'est pas justement une voie qui va être prise du coup par un petit peu tout le monde, parce que ça paraît la chose la plus intelligente, la plus
pour Left 4 Dead,
intéressante.
Pour Left 4 Dead, oui, parce que t'es dans un environnement fermé avec des vagues d'ennemis et que tu ne sais pas ce qui doit t'arriver sur la gueule. Ça fait partie du jeu aussi de pas savoir exactement à quoi tu vas être confronté à un moment donné. Donc effectivement, avoir un espèce de maître de jeu derrière. Donc la fameuse IA manager qui est derrière et qui va décider de ce qui va se passer en fonction de ce que toi t'as fait, ça marche très bien. Mais dans un Call of Duty par exemple, ça marcherait probablement moins bien. Parce que Call of Duty, tu veux un truc impressionnant, qui t'en colle plein la gueule, et c'est un ride. Voilà, t'es sur des rails et tu vis l'aventure et basta. Donc tu cherches pas forcément à être surpris par les ennemis qui vont se jeter globalement sur.
Mais est-ce que l'IA honnêtement est très importante dans Call of Duty?
Justement moins. Ouais. Enfin, le truc c'est qu'il faut que ça ait l'air de
Call of Duty, c'est le popcorn humains, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc tu t'en fous. Après, dans un Halo par exemple ou un Crysis, qui sont des FPS qui sont beaucoup plus ouverts, là il peut y avoir des choses intéressantes. Un des premiers FPS qui a vraiment surpris par son IA, c'était Half-Life, le tout premier. Et c'était seulement à la moitié du jeu, donc c'était d'autant plus percutant qu'au départ, tu sais, bon, t'es Gordon Freeman, t'as des aliens un peu chelous qui vont ça et là, tu te débrouilles comme tu peux, puis au bout d'un moment, il y a les marines qui arrivent, donc ça fait déjà 3 plombes que t'es à Black Mesa en train d'essayer de te tirer de cette horreur. Tu vois les marines arriver et tu te dis ah enfin des alliés, sauf que non, en fait les marines se retournent contre toi et commencent à te tirer dessus, donc déjà tu pètes un câble parce que tu te dis mais qu'est-ce qu'ils foutent, moi je suis du côté des USA, je veux me barrer. Et puis en fait ils le font vachement bien, ils passent d'une caisse à l'autre, ils balancent des grenades, pour l'époque c'était ouf, un ennemi qui balançait une grenade quoi. Et c'est des systèmes pour lesquels t'as pas besoin d'avoir une IA supérieure qui contrôle des plus petites IA, enfin pas vraiment quoi.
C'est vrai que, pour finir là-dessus, je pense que c'est l'avenir, mais des modes de jeu type Horde.
Ouais.
Donc, comme Gears of War ou Uncharted ou Left 4 Dead. Parce que ça, voilà, comme tu disais, ça va exactement bien avec ce qu'ils essaient de lancer. Ils lancent des ennemis basiques, avec des archétypes bien précis. Et eux, après, ils n'ont plus qu'à modifier la recette, quoi. Ils savent que tel ennemi va encourager tel comportement du groupe. Donc, j'en balance un si le groupe... ne joue pas comme ça, etc., etc., pour l'encourager à changer.
Puis ça introduit de la variété dans les modes de jeu, tout simplement.
Et ça introduit une rejouabilité énorme qu'on retrouve justement dans Left 4 Dead.
Alors justement, là, depuis quelques semaines maintenant, on commence à entendre parler des premières rumeurs, des nouvelles machines. On sent qu'il va avoir de la puissance. On sent aussi qu'il y a beaucoup de choses, des questionnements. L'IA, l'avenir de l'intelligence artificielle avec beaucoup plus de puissance. Alors on le disait tout à l'heure en préambule que bien évidemment les développeurs vont aussi vouloir continuer à faire des choses plus belles, etc. Mais enfin, on imagine et on le voit, hein, machines évoluant les unes après les autres, que l'IA quand même a beaucoup progressé. Vers quoi est-ce qu'on peut tendre ? Qu'est-ce qui reste à améliorer ? Qu'est-ce que aujourd'hui, en tant que développeur, elle vient d'où la frustration et les choses que vous savez que vous pouvez améliorer, mais sur lesquelles il vous manque encore un petit peu de temps machine ?
Déjà, je pense que le problème, enfin, c'est pas seulement de la machine, c'est comme je disais avant, une des choses à améliorer et qui est très difficile, qu'on voit dans très très peu de jeux, c'est déjà de faire avec ce qu'on a actuellement. Une bonne utilisation, c'est-à-dire que avant je disais il y avait les ingénieurs qui travaillaient avec les programmeurs qui travaillaient avec les level designers. Si tout le monde travaille déjà bien main dans la main avec ce qu'on a aujourd'hui, on pourrait faire des trucs vraiment vraiment bien. Maintenant, si dans le futur on a plus de, et on aura, j'imagine, parce que ça va toujours dans ce sens-là, plus de temps machine pour l'IA.
J'aime bien quand un développeur dit j'imagine. Genre, je ne sais pas.
Voilà, on pourrait déjà se retrouver avec plus de possibilités de comportement pour une IA. Mm-hmm. Faut savoir
ou plus d'IA en même temps, d'ailleurs.
Voilà, ou plus d'IA en même temps, ça dépend ce qu'on recherche. Il faut savoir que justement, les possibilités de comportement, plus on en a, on va se dire mieux ce sera, mais en fait, c'est pas forcément vrai, parce qu'on peut se retrouver avec une multitude de comportements tellement que l'IA ne sait même plus lequel choisir au bout d'un moment. Voilà, c'est peut-être améliorer aussi ce comportement de décision de l'IA. Voilà, on va peut-être pouvoir lui définir des plus de chemins, plus de variations. Se dire, tiens, tu réagis à une grenade, tu fais quoi ? Ben, petit A, tu rejettes la grenade. Petit 2, tu dégages. Ou petit 3, tu restes là où t'es. Enfin, je sais pas. Et on pourrait peut-être en rajouter 4 ou 5. Alors là, c'est au niveau très fin, quoi. Ça va pas faire de grosses modifications, mais à terme, le joueur se rendra compte que ah bah oui, tiens, elles font des trucs un peu plus variés, un peu plus intelligents. C'est peut-être vers ça qu'il faudrait tendre, ce côté varié. C'est-à-dire, à chaque fois que je joue et que je rencontre un mec avec un fusil, bah, c'est pas toujours la même chose, et il fait peut-être des fois des choses un peu différentes, tu vois. Et voilà. Donc ça pourrait être une des possibilités. Sinon, une autre chose. Il y a quand même beaucoup d'académiques, de gens qui font des recherches sur l'IA. J'encourage tout le monde d'ailleurs à aller voir un site qui est excellent, qui s'appelle AIGameDev.com, qui est un site créé par Alex Champandard, qui est un mec génial. Et là-dessus, on peut y trouver toutes les dernières recherches. On peut y trouver voilà, des interviews de développeurs. Alors ça peut être un peu pointu, hein, quand même. ça peut être très... beaucoup à propos du code, mais on y voit des intentions, on y voit des tendances, et c'est assez intéressant. Mais de dire tout ce qui est possible dans l'IA, bah, c'est ça qui est bien dans l'IA, c'est que c'est un peu un terrain inconnu. On avance et on découvre des nouvelles choses, et c'est ça qui est intéressant.
Il y a un autre aspect qui relève finalement de l'IA aussi, mais qu'on appelle de la simulation, et qui est assez peu utilisé. Encore une fois, Peter Molineux et ses équipes travaillent pas mal là-dessus, c'est-à-dire construire des systèmes entiers avec des règles sur, par exemple, à quelle heure tel village est livré dans le monde de fables, et tu vois les mecs qui vont sur les quais, qui prennent les caisses, qui les apportent aux boutiques, etc. Si tu veux acheter, si tu veux aller acheter de la bouffe à ce moment-là de la journée avant qu'il soit livré, bah, les prix seront beaucoup plus chers.
Déjà vu dans Shenmue.
Par exemple,
ça a déjà été fait, ça.
Mais il y a des trucs, voilà, ça c'est des.
Dans Majora's Mask.
C'est ce qu'on appelle de la simulation, donc c'est quelque chose qui est systémique et qui n'est pas nécessairement incarné dans le jeu par des IA en particulier sous forme de PNJ, enfin de personnages. Il y a ça aussi, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme ça. Par exemple, quand tu prends Skyrim, qui est soi-disant avec un système de ce qu'ils appellent le Radiant AI. Chez Bethesda, c'est-à-dire la façon dont les gens vont se lever le matin, interagir les uns avec les autres, se coucher, ouvrir leur boutique, fermer leur truc, etc. Quand tu regardes ça sur le papier, tu te dis mortel, ça a l'air fantastique. Et puis quand tu commences à te balader dans le jeu, tu te rends compte évidemment des limites qu'il y a entre l'IA globale d'un village et l'IA de chacun de ces individus qui parfois font juste n'importe quoi, où il suffit de leur mettre une jarre sur la tête et puis tu peux piquer toute la boutique sans qu'ils s'en rendent compte. Enfin, des trucs comme ça. Et donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire en jeu systémique pour proposer des univers entiers comme ce que fait Red Dead Redemption, comme ce que fait GTA, comme ce que fait Skyrim, etc. Et proposer peut-être des jeux, plus de jeux ouverts, type bac à sable, avec plein de choses à explorer dedans et plein de systèmes qui interagissent les uns avec les autres sans que ça soit méga buggé. Parce que c'est ça le problème, c'est que plus tu rajoutes des systèmes différents qui interagissent les uns avec les autres et plus tu as des trucs complètement débiles. Mais au moins dans un Red Dead ou dans un Skyrim, en général, c'est marrant.
Ou bien, il y a encore une autre voie, c'est de une seule IA, comme ce que proposait ou semblait proposer Project Milo de Peter Molineux.
Oui. Mais donc dans un autre registre, c'est The Last Guardian, par exemple. The Last Guardian, c'est ça aussi. A priori, il y a très peu d'IA dans le jeu, quelques ennemis de ça et là, et tout est concentré sur la créature et les interactions que tu vas avoir avec lui. Alors après, on n'y a pas encore joué.
De quel jeu tu parles ?
The Last Guardian, tu sais, c'était un jeu...
Lequel ? Je me souviens plus très bien. Ma mémoire a flanché.
Mais dans une configuration... Prenons Ico, par exemple, en exemple aussi, dans une configuration assez simple où tu as quelques ennemis de temps en temps et où tout le reste, c'est Yorda, sa façon de réagir à tes trucs, tu peux pousser les comportements plus loin. Tu n'as pas forcément besoin de plus de puissance, mais peut-être d'un jeu plus adapté pour ce genre de trucs là aussi. Mais évidemment, si tu as plus de puissance, tu peux faire plus de trucs.
Et puis après, il faut des sous, parce que ça, c'est une chose qu'on ne dit pas assez souvent, mais c'est vrai que les équipes de programmeurs, d'artistes, etc., sont généralement des équipes, je parle vraiment sur les jeux AAA, hein, des équipes assez étoffées. Sur un jeu AAA, il y a combien de personnes dédiées à l'IA ? C'est très peu.
Si je prends l'exemple de Crysis 2, on était à 4 ou 5 programmeurs et 2 designers. Voilà, donc 6 personnes sur l'IA. Ça, on parle du jeu en lui-même. Hein. Je ne prends pas en compte les ingénieurs et tout ça. Mais sur l'IA du jeu, voilà, on était 5 ou 6.
Pour une équipe de combien ?
Pour une équipe de 300 personnes.
Voilà.
Ouais. Ah ouais, c'est ridicule.
Donc effectivement,
ça fait 1%.
Si un peu plus de sous est alloué aussi à la branche IA, donc plus de personnes et donc potentiellement plus de taf et donc plus de, de finesse aussi peut-être.
Ah, c'est sûr. De toute façon... l'IA, c'est aussi énormément de réglages. Mmh. C'est-à-dire que les programmeurs vont faire un excellent boulot de créer une IA qui a un comportement spécifique, etc. Maintenant, si le designer lui-même règle ça n'importe comment, par exemple, disons que j'ai un sniper, voilà, comme dans Crysis 2, j'ai un sniper et le designer, lui, a des outils pour dire... Ce sniper-là, dans tel niveau, je peux lui mettre des réglages spéciaux, parce que peut-être que ce niveau-là se passe dans la nuit, ou qu'est-ce que j'en sais. Et s'il fait n'importe quoi avec ça, c'est-à-dire, bon, j'ai un sniper, il voit à 5 mètres, et il peut tirer une balle par minute, et il ne recharge jamais, ben, j'aurais beau avoir une super IA, ça va faire n'importe quoi. Donc, je dis ça, là, bien sûr, c'est un exemple extrême, mais c'est une chose vraiment importante, c'est que...
Il y a une différence entre faire une bonne IA et bien l'utiliser.
Il y a ça, il y a l'utilisation, et il y a aussi l'uniformité. C'est-à-dire que vu qu'on a tellement de contrôle précis sur chacune de ces IA, il faut que chaque sniper, par exemple, chaque sniper dans chaque niveau se ressemble et représente un challenge équivalent pour le joueur, et qu'on s'en retrouve pas un qui voit à 30 mètres alors que l'autre voit à 200 mètres.
Oui, sinon le joueur il comprendra pas quoi.
C'est ça, donc ça c'est aussi c'est la dernière étape, mais c'est du réglage fin et finalement ça joue pas mal quoi.
Et en ouverture de ce podcast, au-delà même du jeu vidéo, de ce que tu vois toi dans le domaine de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on se rapproche de HAL ? Est-ce qu'on va avoir HAL de notre vivant ?
Putain, j'en veux pas moi.
C'est HAL, c'est celui de Tron ?
Non. Je parle de celui de 2001.
2001.
L'Odyssée de l'espace. Oui.
Alors, honte sur moi, j'ai jamais vu ce film.
C'est pas possible.
Mais.
Alors, c'est un robot, c'est un peu salaud hein, sur les bords, mais vraiment, enfin, c'est un humain. Humain
que faites-vous,
quoi.
Dave ? Que
voilà,
faites-vous,
il te
Dave
parle.
D'accord.
Il est un peu flippant, ouais. Ou Skynet, alors, là, c'est une loi en version pire, quoi.
Ben ouais, non mais on pourrait carrément le faire, comme tu disais avant.
On peut d'ores et déjà le faire ?
Oh ben, je pense qu'on pourrait déjà aller bien loin. Si on prend des jeux comme, voilà, où il y a une seule IA, tu disais The Last Guardian ou des choses comme ça. Si on se focus tout sur cette IA et qu'on en fait une IA sadique, voilà, on pourrait même imaginer que cette IA HAL, c'est un AI director. C'est lui qui, tu vois, ça pourrait être dans Left 4 Dead et lui, avant de te balancer des ennemis, il va te balancer des petites phrases, machin, tout ça. Donc ça pourrait être... plus dans la scénarisation, mais on pourrait déjà faire quelque chose qui ressemble. Hein, oui.
Et vous, justement, entre vous, entre développeurs, vous n'avez pas parfois bougé les IA pour vous, juste pour vous amuser entre vous et faire des trucs complètement impossibles ?
Les faire s'entretuer,
par exemple.
Oui, ça, on essaye des fois, c'est assez rigolo d'ailleurs. On prend dans Crysis 2, on avait par exemple réglé, il y avait un ennemi. Au lance-grenade, c'est un ennemi humain. Et pour s'amuser, on les faisait tirer 3 grenades à la fois. Et donc c'était impossible pour le joueur. Mais c'était très rigolo. Et surtout,
c'est là que t'as tout le QA, les testeurs, etc., qui vous monissent la gueule, hein, c'est ça.
Non, c'était pas allé jusque-là, mais on avait réglé. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, ça a occasionné un autre problème qu'on n'avait pas vu. C'est que quand ces ennemis-là se mettaient à couvert, et ben normalement, ils sont à couvert et ils se penchent et ils ont une animation d'un certain temps pour tirer une grenade. Mais pas pour en tirer 3. Du coup, ils en tiraient 1, 2 et ils étaient déjà en train de se remettre à couvert pour la dernière.
Ce qui leur retombait dessus.
La dernière, ils la tiraient dans la cover et ils s'éclataient la figure à chaque fois. Donc on peut bien s'amuser. Ouais.
D'accord. Bon, en tout cas, merci infiniment, David, a.k.a. Ace Care, que vous retrouverez dans le travail. Vous allez pouvoir le retrouver très bientôt sur Ghost Recon Future Soldier. Au moment où on est en train de parler, je crois que vous êtes dans les toutes dernières étapes de la finition du jeu, là.
Bah, il sort en mai, fin mai, donc en effet la date se rapproche.
Vous êtes plutôt content en interne ?
Ah ben, on est content de la qualité du jeu.
Non, c'est de la merde, on trouve ça nul.
Non, on est très content.
Au niveau de l'IA, il y aura des choses surprenantes pour les joueurs ?
Ah, je peux pas trop en parler là pour l'instant.
J'aurais essayé. En tout cas, voilà, vous pouvez le retrouver dans le générique de Ghost Recon Future Soldier. D'ailleurs, il y avait un post assez amusant, celui où tu as été dans le générique pour la première fois, où tu l'as vu, où ça t'a fait plaisir. Ça, j'imagine, effectivement. Et puis, vous pouvez le retrouver sur gameblog.fr, dans le blog VIP de SK, bien évidemment. Tu sais déjà un petit peu sur quoi tu vas parler la prochaine fois ou pas du tout ?
Et ben là, je continue de répondre aux questions de la communauté, justement, parce qu'il y en avait vraiment, vraiment beaucoup, et des très intéressantes. Et puis ensuite, j'aimerais bien faire, comme j'avais fait avec Nicolas Rivière, justement, analyser, que je joue en fait à Crysis 2 en essayant d'expliquer les anecdotes, sans casser aucune NDA, bien évidemment, mais en expliquant voilà, un petit peu ce qui s'est passé, comment on a itéré à tel endroit, etc.
D'accord. Eh ben écoute, on attend avec
ça quand même dans les jeux. On en a dans les films et tout, mais ce serait bien qu'ils commencent à inclure un peu
des post-mortem,
des trucs avec vraiment des vrais making of et des commentaires au moment où tu joues. Il y en a dans Portal 2, c'est super bien fait.
Dans Alan Wake, ils étaient géniaux les commentaires. T'avais la petite fenêtre des personnages qui apparaissaient au fur et à mesure que tu jouais, et dès qu'ils avaient un truc à dire, super bien foutu.
Dans Portal 2, si vous l'avez pas fait, et il faut absolument le faire parce que ça, on
apprend
plein.
Dans Portal 1 aussi.
Je me souviens pas du tout de Portal 2.
Dans tous les jeux Valve, en fait. Ouais.
Mais Portal 2, il y a vraiment des trucs super intéressants sur des questions de design à la con. Tu vois, pourquoi le champ de force il a cette gueule là, par exemple. Et c'est vraiment super intéressant. Et là, pour le coup, je pense qu'avec les IA, on pourrait apprendre aussi pas mal de choses sur pourquoi est-ce que ça réagit comme ça, qu'est-ce qu'on a essayé de faire et tout ça.
Bah justement, pour finir là-dessus, il y a les commentaires donc de Left 4 Dead, si vous avez le jeu, activez-les. Et là, vous en apprendrez énormément sur les AI Director et c'est vraiment très intéressant.
Et ben en tout cas, une fois de plus, merci David pour tes éclairages sur l'intelligence artificielle. Il y a encore beaucoup de choses à faire, à voir et à dire forcément. À vous maintenant dans les forums de Gameblog, dans le forum là en dessous, là voilà, là où vous êtes. Et bien de nous faire part peut-être des petites expériences que vous avez eues, bonnes ou moins bonnes avec des IA, hein, parce que on a tous quelques moment un petit peu difficile, Shiva, si tu m'entends. En tout cas, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Une fois de plus, rendez-vous avec la rédaction de Gameblog. Merci, David.
Merci.
À très bientôt. Merci, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Ciao à tous.
Salut.
Salut. Ciao.
Et paf. C'est le A de finesse, hein, que tu veux faire, non? C'est un peu ça.
De chaud. Paf. Est-ce qu'on est prêt? J'ai juste besoin d'un 3, 2, 1. Juste avant, on peut faire la bande de quoi? C'est comme un bandage. Ah là là. Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous.